Le thème d'aujourd'hui est un thème important. Un thème important parce que c'est le thème de la réconciliation. La réconciliation, c'est quelque chose dont on entend parler plus ou moins dans les médias, mais dont on ne parle peut-être pas assez. Et donc, cette réconciliation, au fond, qui est le cœur même du mystère chrétien. La réconciliation que le Christ a voulu accomplir en sa chair, par sa passion, sa mort et sa résurrection, la parole de Dieu manifestée dans le Christ et qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est vraiment cette vocation de ramener dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors on va demander nous-mêmes d'être attentifs ce soir, parce que chacun d'entre nous, nous avons d'une manière ou d'une autre un besoin de réconciliation, même si nous n'avons pas forcément un ennemi mortel qui nous serait attitré, qui nous poursuivrait, qui nous harcèlerait. C'est quand même assez rare, grâce à Dieu. Mais on voit bien qu'on a des blocages dans l'amour, on a des blocages dans les relations. On va beaucoup parler de relations et de la qualité de relations ce soir. Et dans ces blocages dans les relations, le Seigneur demande justement d'ouvrir quelque chose à son Esprit Saint pour que nous puissions vraiment être témoins de son évangile et témoins d'un amour plus fort que la mort. Alors je vous ai donné mes notes, là, je pense que c'est aussi bien, j'essaye de faire ça à chaque fois. Comme ça vous pourrez suivre, puis comme vous repérez, c'est peut-être plus facile pour suivre un topo que de rien avoir du tout. Donc j'ai fait un peu des recherches sur, j'aime bien l'étymologie des mots, j'aime bien parce que ça dit un peu quelque chose aussi de ce que porte le mot. Le mot réconciliation vient de clarté claire, c'est amener à la clarté ce qui est dans l'ombre, faire la lumière sur tel ou tel aspect. Et c'est vrai que, au fond, quand il y a des manques de réconciliation, quand il y a des inimitiés, et des personnes avec qui on a de la difficulté ou qui nous ont fait du mal, il y a quelque chose d'obscur qui est jeté dans notre vie. Et Jésus, qui est la lumière du monde, nous dit, ben voilà, je ne veux pas laisser dans cette obscurité gagner votre cœur. Et c'est bien nous-mêmes que nous sachions discerner à l'intérieur de nos vies où est-ce qu'il peut y avoir justement un point où on sent qu'on a envoyé une rancœur. On a une rancœur, on a peut-être été blessé, et on voit bien que cette personne-là, on l'évite, je l'évite le plus possible. Dès que je pense à elle, je ne suis pas paisible. Et donc, cette personne-là, je souhaiterais pratiquement, bon, c'est dit un peu fort, mais si elle n'existait pas, à la limite, ça ne me dérangerait pas. Bon, je ne ferais rien contre la loi, bien sûr, mais... je sens que dans mon cœur, il y a une dureté. Il y a une dureté et Jésus, justement, donc il y a une part d'ombre. Et Jésus vient vraiment pour lui qui est la lumière, lumière des hommes et la lumière du monde. Il vient pour, justement, éclairer notre vie et éliminer toutes ces parts d'ombre qu'il pourrait y avoir, le plus possible en tout cas. C'est une demande aussi explicite, c'est le deuxième point. Le pardon, c'est une demande explicite de Jésus dans la prière du Pater. L'obligation de la correction fraternelle qui se rattache au pardon, telle dans la formule de la cinquième demande du Pater. Et le christianisme, c'est assez intéressant par rapport à la réconciliation. À la fois, c'est au cœur même de la prière de Jésus pour son Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a un lien entre le pardon que le Seigneur nous donne et le pardon que nous donnons à nos frères. Mais en plus, ce pardon, il a, on peut dire, deux caractéristiques principales. Il est d'une certaine manière, le christianisme prêche une certaine humilité dans le pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on a renoncé parfois à faire un peu le deuil d'une communion parfaite avec certaines personnes. Et ça, c'est pas si simple. Vous voyez, il y a une certaine humilité de dire que les gestes de réconciliation que je peux poser, eh bien, ils sont prophétiques, ils sont annonciateurs quelque part d'un Dieu qui vient manifester, justement, et réconcilier, remettre dans la lumière l'intégralité de l'humanité, mais en même temps, ils ne sont pas suffisants. Et vous avez pu faire des expériences, je crois que c'est... Qu'est-ce que j'ai fait comme expérience de pardon, des petits ou des grands, vous voyez, si ça peut être un manque de délicatesse, etc. Mais il y a une humilité à demander pardon et à pardonner, mais aussi il y a une humilité de dire qu'on ne va pas retrouver une qualité de relation avec une communion plénière comme on aurait pu le souhaiter. Donc, au fond, ce pardon s'inscrit dans le « déjà » et le « pas encore ».« Déjà » et « pas encore », c'est une catégorie théologique, biblique aussi. « Déjà nous sommes sauvés, pas encore dans la plénitude. « Déjà nous sommes ressuscités avec le corps, avec le Christ, mais pas encore, encore dans une totalité. » Et donc, dans la réconciliation, il y a cette dimension-là du « déjà » et du « pas encore ». Oui, c'est annonciateur. Oui, je demande la grâce. On va voir que la réconciliation et que le pardon est une grâce que l'on demande, malgré la dureté de notre cœur. Mais accueillons paisiblement aussi dans notre vie que ce ne soit pas plaigné. Accueillons qu'il y ait encore parfois de la difficulté. Vous voyez notre sensibilité face à telle ou telle personne, mais tout de suite on sent qu'on tressaille à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on n'a pas de ça, on n'a pas le cœur vraiment ouvert. Et d'autres fois, il peut y avoir des grâces de grandes réconciliations qui font que ben, y a une vraie confiance. Parce qu'au fond, le signe d'une réconciliation, c'est le fait qu'il y a une confiance qui est retrouvée entre les personnes. Parce que la blessure casse la confiance. Et remarquez bien, cette réconciliation, elle est à faire non seulement avec l'autre qui aurait pu me blesser ou que j'aurais pu blesser, mais elle est aussi à faire avec moi-même, où j'ai à me pardonner à moi-même, à retrouver confiance en moi et en mes choix et en ma capacité de faire le bien, en ma capacité d'aimer. Cette réconciliation, elle est à opérer parfois aussi avec Dieu, qui est la source de toute réconciliation, la source de tout amour. Et on voit bien que quand il y a une blessure et quand il y a, d'une certaine manière, on est trop dans une relation binaire, c'est-à-dire de la personne et moi et la personne, alors que Jésus vient vraiment mettre, on peut dire, une relation triangulaire de ce point de vue-là. Vraiment que c'est avec le Seigneur au milieu de nous que nous voulons faire cette démarche de réconciliation. C'est pas seul. Alors oui, la psychologie va pouvoir aider à mettre des mots, etc., etc. Mais on voit bien, et il y a tout un travail, je veux dire, humain qui est parfois nécessaire, d'avoir un peu des catégories, d'avoir des clés pour comprendre et pourquoi je fonctionne de cette manière-là, pourquoi face à telle personne je réagis vivement ou je sens bien que mon cœur, j'ai une parole sèche ou un ton de voix désagréable, etc. Et parfois, le fait de faire un travail sur soi-même va aider à donner des clés humaines pour comprendre les choses. Pourquoi tel style de personne, eh bien, j'ai du mal. Mais même si j'ai les clés pour décrypter un peu ma manière d'agir, je vois bien que j'ai de la difficulté parfois à vraiment avoir une bienveillance, à retrouver une confiance. Et c'est là où il y a une dimension triangulaire dans la réconciliation. C'est que le Seigneur est au cœur même de la réconciliation. Tant dans le début du chemin, ce qui nous met en route, que dans l'acte lui-même de réconciliation, que après aussi, où on a pu se pardonner, on a pu demander pardon, et du coup on a pu retrouver une relation normale. Dans ce sens-là, je crois que c'est bien de distinguer réconciliation et pardon. C'est pas tout à fait pareil. Parce que réconciliation, ça suppose au moins qu'on soit deux. Pardon, pas forcément. Par exemple, si vous avez une personne qui vous a blessé et qui a disparu, est morte, comment vous faites pour vous réconcilier avec cette personne? Pas possible, parce que s'il faut une réciprocité, en revanche, il peut y avoir un pardon. Et on voit bien des personnes qui... où le fait même... Et comment est-ce qu'on voit qu'il y a un pardon? C'est que le fait même que je pense à telle personne, je reste paisible. Déjà, c'est le signe d'un pardon, en tout cas, qui commence. je vois plus tout cet océan de violence qui peut me guetter quand je quand il y a tel ou quand on évoque tel ou tel nom. Hein, j'ai plus cet océan de violence qui me submerge. Parfois, je me dis mais comment je me prends à avoir des pensées comme ça d'une violence démesurée. Et le signe du pardon, en l'absence de l'autre, parce que c'est ça la question, c'est le pardon en absence de l'autre. Et oui, parce que, ou alors l'autre ne veut pas, ou alors l'autre ne... mais c'est assez archi courant. L'autre ne voit pas pourquoi il vous a blessé. Non, c'est vous qui êtes en tort. Ça m'est arrivé, mais... Vous savez, en communauté, puisque je vis en communauté... Ben voilà, on a la vie communautaire, surtout masculine, j'allais dire, bon, mais féminine certainement aussi, mais bon, il y a parfois des... bon, ça chauffe, quoi. Il y a des coups de grisou hein, dans la communauté, avec certains frères, plus qu'avec d'autres. Et justement, je me rappelle quand je suis rentré dans la vie religieuse, où j'avais du mal, justement, avec certains frères, et pourtant j'étais rentré pour suivre le Christ, pour grandir dans l'amour, la charité parfaite, etc., tout ce qui va avec la vie religieuse, en tout cas ce qu'on souhaite, ce à quoi on aspire. Et puis, j'avais parlé un peu comme ça avec mon maître des novices, avec qui je faisais le point régulièrement, il me dit, mais regarde d'abord pourquoi tu as cette réaction-là. Toute démarche de réconciliation, d'abord, c'est un travail sur soi-même. C'est d'abord, pourquoi est-ce que je suis plus dans l'amour, je suis plus dans la confiance, pourquoi je mets des barrières face à telle ou telle personne, dans telle ou telle circonstance. Donc il y a d'abord à se questionner. Et puis, il y a ce qu'on appelle dans la correction fraternelle, vous voyez, la correction fraternelle, on suppose qu'elle soit plus fraternelle que correction, et donc la correction fraternelle consiste à aller voir le frère, et à lui dire, mais écoute, voilà, il y a telle chose... t'es chargé d'une chose, tu l'as fait jamais. Voilà. Bon, c'est quand même pas normal. Du coup, la communauté, toi, tu es chargé de préparer le petit déjeuner. Alors, je vous raconte pas la tension qu'on sort des lots dans la demi-heure d'oraison. Tous les frères sont déjà dans les starting blocks pour le petit déjeuner. Donc, et ensuite, tac, ils arrivent, pas de petit déjeuner prêt. Oula, on sent que ça chauffe. L'eau chauffe aussi parce que le frère s'est rendu compte, donc tout le monde panique, tout le monde essaie de faire chauffer le lait, etc. Mais c'est intéressant de dire, c'est vrai que c'est désespérant, ça c'est clair, parce que bon, ça fait partie du bien commun que chacun remplisse sa tâche, et quand chacun a une tâche, bon, qu'il a fait, bon, le frère a oublié, il ne s'est pas levé, bon, il a été malade toute la nuit, on ne sait rien, bon. Mais si j'ai une correction fraternelle, et ça m'a servi, eh bien, mon maître de novice m'a dit, quand ça ne te dérangera plus, tu pourras lui dire. Oui, quand ça ne t'agacera plus, tu pourras lui dire. Parce que c'est pas parce que tu es agacé et sous l'agacement que tu vas lui dire. C'est parce qu'il y a un bien en jeu objectif pour la communauté et peut-être pour lui aussi. Donc c'est aussi à discerner quand on fait par exemple la correction fraternelle, quand on va voir quelqu'un en lui disant, c'est un grand acte de confiance en même temps, hein. Parce que c'est pas si simple, en lui disant paisiblement, et bien du coup, de se dire, est-ce que je fais ça parce que ça m'exaspère et je veux que ça s'arrête? Ou est-ce que je fais ça parce que, au fond, pour le bien de l'autre? Vraiment par amour désintéressé. Et c'est toujours bien de se sonder quand on a une remarque à faire à quelqu'un. Et peut-être même de demander conseil aussi, de suggérer, de dire, mais qu'est-ce qui est objectif dans ma demande? Qu'est-ce qui est excessif? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'exaspération? Vous voyez? Et donc, cette question de correction fraternelle qui se pratique assez peu. Il y a beaucoup de critiques, c'est même un sport national en France. La critique, on a un esprit très critique surtout, et bon voilà. Mais on a peu de d'une certaine manière, peu de capacité à aller voir l'autre, à lui dire, mais écoutez, yes, je ne comprends pas telle attitude, telle autre. Et quand on va voir l'autre, c'est ça. Il faut d'abord se mettre en cause. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Et non pas, tu as fait ça. C'est pas du tout pareil. Je ne reçois absolument pas le message de la même manière, encore une fois, tu as fait ça, de toute façon, tu es un paresseux, tu es bon. Ou alors, je ne comprends pas pourquoi tu fais pas ce que tu dois faire, bon, préparer le petit-déj ou autre chose. Bon, vous voyez, d'abord, du coup, on se met dans une attitude d'humilité, parce que facilement, l'autre, clac, on met un mur pour se protéger, oula, et il ne sera plus accessible à une réconciliation, ou à une conversion, à une demande de conversion au nom de la communauté. Donc, c'est intéressant de dire ça, justement, de rappeler que tout chemin de réconciliation, c'est d'abord un chemin de travail sur soi-même. Il faut demander au Seigneur de nous éclairer et de voir qu'est-ce qui est de l'ordre un peu de l'émotionnel, de l'agacement, et qu'est-ce qui est de l'ordre vraiment de la faute et de la blessure. Hein, vous voyez, ça c'est, à mon avis, un aspect important à prendre en compte. Hein. Donc, les gestes de réconciliation que nous pouvons poser, il y a une forme de frustration d'une certaine manière. Hein. Ces gestes sont à la fois indispensables, hein, mais en même temps insuffisants, et ils apparaissent comme des signes avant-coureurs d'un monde à venir. Donc, il y a donc une certaine humilité. C'est important parce que sinon on peut se décourager, vous voyez. Et puis même, on peut se décourager parce qu'on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas plus d'amour quelque part, pourquoi les relations ne sont pas plus faciles, pourquoi. Et on s'interroge soi-même. Eh bien, justement, il y a à accueillir une. Ben voilà. Tant que Dieu ne sera pas tout en tous, c'est-à-dire à la fin des temps, eh bien, nous aurons de la difficulté à rentrer en relation les uns avec les autres. Et que très certainement, un chemin spirituel vers le Seigneur nous aidera à vraiment, mais profondément, c'est, nous aidera à nous apaiser d'abord, à voir la blessure que l'on a pu recevoir avec une plus grande paix, et en même temps nous aidera à nous donner la force justement d'aimer les ennemis. C'est le cœur de l'évangile, aimer les ennemis. Alors, c'est Jean Vanier, c'est vraiment un homme vraiment formidable, Jean Vanier de la communauté de l'Arche. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez cette communauté où il y a la plupart du temps des jeunes, jeunes professionnels, jeunes étudiants et des personnes handicapées mentales qui vivent ensemble sous un même toit. Et il dit, comme c'est important justement, comme la personne handicapée mentale va m'aider à pointer les angoisses. Il y a des tas de gens qui ne s'approchent pas des personnes handicapées mentales parce que ça leur provoque une angoisse en elles et en même temps une violence, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils ne savent pas comment. Et justement, la personne plus pauvre va venir pointer mes manques d'amour. Et Jean Vanier disait, qui est l'ennemi? C'est important d'avoir un ennemi, sinon on ne pratique pas l'évangile. Ben oui, si vous n'avez pas d'ennemi, il faut avoir un ennemi. Alors, qui est l'ennemi? Alors, ce n'est pas l'ennemi mortel, encore une fois. Qui est l'ennemi? Eh bien, l'ennemi, c'est celui qui me fait grimper au rideau, qui me donne de l'urticaire, qui m'exaspère. Là, tout de suite, la liste, ça commence à être une liste assez longue, vous voyez. Hein? Oh là, mais celui-là, qu'est-ce qui est exaspérant, vous voyez, ça c'est. Oh là, encore un mail, oh là là. Encore un message de 2 heures sur le répondeur, bon, c'est comme ça. Vous voyez, c'est des gens avec qui on a du mal. Mais il se trouve que c'est des personnes aussi qui ont la plupart du temps, moi j'ai remarqué, que c'est des personnes aussi qui ont du mal elles-mêmes à se positionner. Qui ont une fragilité, qui sont comme parfois handicapés dans la relation. On est tous des handicapés de la relation. On n'y arrive pas. On reste sur la surface, on reste dans on essaie de montrer le truc le plus chouette possible aux autres, mais bon. Vous savez, par exemple, dans la préparation au mariage, j'aime beaucoup ce ministère de préparation au mariage, il y a une étape qui est franchie dans la vie des fiancés, et puis ensuite dans la vie de couple, quand on peut se montrer pauvre face à l'autre. D'une certaine manière, quand on n'a plus rien à prouver, qu'on n'a pas prouvé que je suis le meilleur, je suis la plus belle, que ceci, que cela, que. Bon, ça ne veut pas me dire qu'il faut se laisser aller et plus se baigner, prendre sa douche pendant 15 jours, mais sous prétexte de ça, mais en même temps, c'est justement ça. C'est quelque part arriver à une. Je suis sûr de ton amour et donc je vais te montrer mes fragilités. Les trucs que j'aime pas trop montrer. des trucs dont je ne suis pas vraiment fier. Alors, ça n'empêche pas d'avoir un jardin secret, justement, et de réserver ça aussi pour le sacrement de la réconciliation, hein, que le Seigneur donne et vient toucher dans l'âme, l'âme à l'intime. Mais il y a certaines choses que l'on peut dire, et quand on se montre un peu vulnérable dans la relation de couple, alors c'est sûr, c'est qui tout double. C'est-à-dire, ah ben, moi je pensais qu'au contraire, que tu étais le fiancé parfait, mais écoute, bye bye. Ou alors, au contraire, c'est l'invitation pour l'autre de montrer aussi sa fragilité, et un amour qui accueille la vulnérabilité de l'autre, ça, c'est un amour durable. Mais tant que je suis dans montrer à l'autre que je suis un superman, superwoman, ça dure pas très, d'abord, ça ne dure pas très longtemps, on ne peut pas faire très longtemps illusion. Une fois que la vie commune commence, par expérience, je n'ai pas de vie matrimoniale, mais j'ai une vie commune, ben voilà, ça vous met complètement en transparence. On a beau cacher, on a beau ceci, bon. Mais au contraire, de se dire, voilà, j'accueille aussi ta fragilité, je pense par exemple à Tim Guénard. Ça vous dit quelque chose, Tim Guénard, hein, les uns les autres? Tim Guénard, il a eu un combat très, disons, un parcours très compliqué, à la fois dans la drogue, dans la violence, etc. Bon. La chance de sa vie, c'est deux chances. Premièrement, sa femme, qui était d'un milieu pratiquement à l'opposé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et puis, la rencontre avec le Seigneur. C'était les deux grandes chances de sa vie. Mais il faut voir cette... Et elle a accepté. On est violent tant qu'on ne se sent pas aimé dans sa vulnérabilité. Mais dès qu'on se sent aimé dans sa pauvreté, eh bien, on s'apaise. Et tout le cheminement spirituel consiste justement à nous laisser rejoindre par le Seigneur dans nos bas-côtés, dans les choses vraiment dont on n'est pas fier, les choses qu'on fait seul, et surtout on n'aimerait pas qu'on ait des témoins à côté de nous, parce qu'on serait embêté, hein, si on savait ce qu'on fait. Bon. Vous voyez, ou si on savait ce qu'on pense. Cette semaine, c'était pas cette semaine, c'était dimanche dernier. Celui qui se met en colère contre son frère, je vous le dis, ben voilà, hein, il est digne de... Il aura aussi à répondre. L'homme qui a désiré une femme dans son cœur, je vous l'ai dit, il est adultère. Donc non seulement, c'est ça, même les pensées, on n'aimerait pas trop que certaines qu'on connaît, mais justement, la vie spirituelle consiste à progressivement se montrer pauvre et se dépouiller face au Seigneur. C'est quelque part baisser les armes, abaisser les murailles. Il faut toujours y revenir. Parce que on est tellement vite fait de... Justement, parce que c'est complètement à l'inverse de la logique du monde, hein, quand vous n'ayez pas remarqué. Donc, vous prenez un point, c'est l'opposé. Mais oui, mais ce n'est pas un problème. La logique de l'Évangile n'est pas la logique du monde. Et je trouve que de plus en plus, en tout cas l'Église... s'inscrit dans une contre-culture. Avant, c'était les 68 arts qui s'inscrivaient dans une contre-culture. Maintenant, c'est l'Église catholique, qui pourtant quelques années derrière elle, qui s'inscrit dans une contre-culture par rapport le rapport à la sexualité, le rapport au pouvoir, le rapport à l'argent. Contre-culture. Mais qui va finir par être... Mais qui est en même temps attendu. Contrairement à ce que vous pensez, le message de l'Évangile est attendu. Il faut simplement le rendre audible. Et donc voilà, donc je crois que c'est... je pense dans les relations professionnelles, ça n'empêche pas, je veux dire, d'abaisser un peu ses défenses, etc. Ça n'empêche pas d'être compétent. Vous voyez ? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le milieu professionnel du moment que vous êtes compétent. C'est pour ça qu'il faut viser une certaine excellence, hein, dans, au plan professionnel. Ça, on peut parler plus facilement. Et donc, voilà, c'est Au fond, c'est le christianisme, vraiment, le contact avec Jésus par son Esprit Saint nous permet, et par la grâce des sacrements, pour ça la grâce de la confession, alors peut-être les uns et les autres, vous n'avez pas fréquenté ce sacrement depuis, peut-être quand vous prépariez à la profession de foi ou à la confirmation, etc., d'autres vous êtes plus familiers. Mais justement, c'est un des sacrements qui est, bon, c'est progressivement mis en place dans l'Église, de dire, voilà, j'ai besoin d'un lieu et j'ai besoin de quelqu'un à qui dire, et qui lui-même, au nom du Seigneur, peut me donner le pardon, à qui dire, eh bien, mes petits côtés, mes sales trucs. Vous voyez ? Et c'est important, on se dit, mais pourquoi pas se confesser directement avec Dieu ? Mais justement, la psychologie, là, nous dit, non, le fait de dire quelque chose, ça jette déjà loin de soi. Le verbe nous permet d'extirper de nous-mêmes, on l'a dit, on ne le garde pas en nous. Tu mets loin de nous nos péchés. Il ne nous appartient déjà plus. Vous voyez ? Donc, ce sacrement de la réconciliation, justement, c'est un temps et un lieu vraiment privilégié, vraiment une circonstance, un sacrement, un signe que donne le Seigneur pour son peuple, hein, d'avoir accès à la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde ? C'est avoir du cœur pour la misère. Or, quand on regarde bien notre attitude, dès que je vois de la misère dans l'autre, je la fuis. Et surtout que nous, on a quand même, la plupart d'entre nous, pratiquement tous, des études supérieures, la capacité de juger, on a une facilité à voir le point noir dans la page blanche, ça c'est franco-français aussi, hein, ça c'est vraiment le point noir dans la page blanche. Moi j'ai vécu longtemps en Amérique latine, mais c'est tout à fait autre, il y a une bienveillance. Bon, ils sont jamais à l'heure, mais il y a une bienveillance, vous voyez, alors que nous, attention, tu dis un mot, c'est pas facile d'apprendre le français, et tu dis un mot à la place d'un autre, attention, bon, et justement, je crois que chaque pays, chaque culture a à recevoir de l'évangile un appel à une conversion. Et il faut que demander au Seigneur, pour nous en tout cas, une grâce de bienveillance. Une grâce de miséricorde. Et donc on voit bien que dans cette dimension-là, que pardonner, ce n'est pas oublier. On dit, oui, je pardonne pas, mais je pardonne, mais j'oublie pas. Tu parles. Vu comment c'est dit, on voit bien que tu n'as même pas pardonné, mon gars. Hein. Donc, le bon Dieu ne nous demande pas d'être des amnésiques. Et donc, précisément, que l'on se souvienne même de la faute après avoir entamé une démarche de pardon, c'est un peu normal, c'est tout simplement qu'on va bien, quoi. Donc pardonner, c'est pas oublier, mais c'est convertir le mal. Vous voyez, c'est, on voit le mal, mais on ne laisse pas le mal avoir le dernier mot. On voit l'offense, on voit la blessure, mais on ne la laisse pas triompher. Je ne veux pas que ça ait le dernier mot, ça soit un obstacle entre nous. C'est ça la réconciliation. C'est célébrer l'amour victorieux. Je veux que ce soit l'amour qui ait le dernier mot. Alors, c'est là où on se dit, mais tout seul, on n'y arrivera pas. C'est vraiment une démarche profondément spirituelle. C'est une démarche qui se fait justement à trois, sous le regard du Seigneur, pour ne pas aplatir la relation, pour ne pas exacerber la souffrance, pour élever aussi à la fois le débat et élever la qualité de relation entre nous. Et donc c'est... Au contraire, dans la réconciliation, il est toujours bien de nommer l'offense. Il n'y a rien de plus pénible, par exemple, quand vous allez vous excuser pour une chose, une petite chose, etc. Vous avez été un peu impulsif, désagréable, bon, vous allez voir la personne, vous excuser. Mais non, c'est rien du tout. Tu parles. Quand j'ai j'ai vu ta tête, j'ai bien vu que c'était quelque chose. Il n'y a rien de pire, c'est de ne pas reconnaître qu'il y a eu offense. La base de la réconciliation, c'est de reconnaître qu'il y a eu offense. Et non pas parfait. Vous voyez, un peu, c'est une certaine éducation qui vit, surtout, pas de vague. C'est ce que je veux dire. Non, il y a très bien, parfait. Mais non, il y a presque rien. Mais n'insistez pas, je vous en prie. Ça, c'est zéro, c'est nul, quoi. Moi, j'ai dû apprendre, dans la vie religieuse, à rentrer en conflit. Alors, vous me dites, c'est un peu curieux de dire ça, parce que j'avais reçu une éducation comme ça. J'ai dû apprendre à me poser face au frère, à lui dire, on a un désaccord, ça ne va pas. Je n'avais jamais appris. Ça s'apprend. Vous savez, la question du conflit, apprendre à gérer les conflits, oui, c'est... Mais n'ayez, je veux dire, il n'y a qu'au cimetière qu'on est complètement détendu. Je veux dire, mais sinon, il y a de la tension tout le temps. On dit un monde sans tension, mais oui. Vous voyez, c'est intéressant. Un monde sans tension, alors c'est soit le cimetière, soit le virtuel. Le virtuel, il n'y a pas de tension. S'il y a une tension, je vais sur Facebook, je n'aime plus. Plus ami. Clic. Ciao. Zéro tension. Vous voyez, et le virtuel, c'est pas ça la vie. La vie de couple, par exemple, c'est pas ça. Et je crois que la majorité d'entre vous, vous êtes certainement appelés à une vie matrimoniale. Ben, c'est pas ça la vie. La vie de couple, on ne clique pas, puis on dit, ben non. Il y a beaucoup qui cliquent, justement. On voit bien les conséquences. Et donc, c'est apprendre à porter aussi les fardeaux les uns des autres. C'est ce que dit Saint Paul dans la lettre aux Galates. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Il y a quelque chose à porter dans la relation. Il y a quelque chose forcément de difficile. Mais on ne le porte pas seul. C'est là où est l'erreur. Combien de personnes l'ont porté seule ? Se sont appuyées que sur elles-mêmes. Et donc apprendre, c'est important de justement, le conflit fait partie de la vie. Conflit intérieur, on voit bien quand nous, entre corps et âme, entre nos pensées, etc., ça se bouscule. Un conflit avec l'autre, conflit avec Dieu. Combien de personnes j'ai entendu dire « j'ai cessé de croire le jour où ma grand-mère est morte. J'avais tellement prié pour ma grand-mère. » Et peut-être ou pour un autre cher, ou pour qu'elle guérisse. J'étais enfant, et elle est morte. Rideau, fini. Vie spirituelle, zéro. Depuis ce temps-là. Il y a une réconciliation, parce que Dieu peut aussi être l'ennemi. Mais c'est nos images de Dieu, d'un Dieu magicien, d'un Dieu qui vient... C'est pas le Dieu de Jésus-Christ, quoi. C'est nos interprétations, nos schémas. Et donc, c'est toujours bien, justement, dans la manière de gérer les conflits, de nommer les choses, de dire les choses. Rien que le fait de dire, encore une fois, au plan humain, c'est, je veux dire, au moins 50% de la question qui est réglée. En quoi ça t'a blessé ? Et non pas, justement, pas de vague, etc. Ça, c'est... Au contraire, disons les choses. Et donc, dans la vie religieuse, moi, j'ai appris à rentrer en conflit avec l'autre, et non pas, justement, parce que derrière ça, le fait de ne pas avoir de conflit, c'est toujours être aimable. Je suis gentil. Il y a un livre qui est paru il y a quelque temps qui dit « Cessez d'être gentil, soyez vrai. » Alors, ça ne veut pas forcément être désagréable tout de suite. En tout cas, mais cessez d'être... Je veux dire, je suis gentil parce que quelque part, je veux... Mais c'est sûr qu'on a tellement besoin d'être aimés tous les uns les autres. Mais justement, une relation mature, une relation adulte, relation de couple, mais une relation de travail, une relation d'amitié, c'est aussi nommer le conflit. Mais on se dit l'un à l'autre que l'on ne va pas en rester là, je veux dire qu'on ne va pas laisser cette situation-là pourrir notre relation. Alors c'est vrai que ça demande une certaine humilité, ça demande de réouvrir le cœur, parce que moi je constate quand même que le cœur peut s'endurcir. Vous savez, le cœur peut se fermer, clac, comme ça. On a, soit dans la relation avec le Seigneur, soit avec certaines personnes, on a fait un blackout intérieur, la personne n'existe plus pour nous. Elle est comme morte pour nous. Et ça demande de... Et du coup, on rationalise, on s'endurcit, ce qu'on appelle l'endurcissement du corps, on se donne des raisons pour être comme on est et pour agir comme on agit. Et justement, c'est la réconciliation va être justement celle où le Seigneur, par son Esprit Saint, aussi à l'initiation de la réconciliation. Parce que va permettre un événement, une rencontre, de réouvrir le cœur, de ne serait-ce que de revoir l'autre, sans lui parler, mais d'accepter de revoir. Vous savez, j'étais au milieu de prison pendant 10 ans en Amérique latine, et là, vous avez des personnes vraiment qui ont fait le mal. Même si beaucoup d'entre elles disaient qu'elles étaient innocentes, etc. Mais bon, il y avait peut-être des innocents, mais la plupart étaient coupables, en tout cas. J'ai eu aussi un désir, mais je sais pas, j'ai dû partir, mais d'aller voir les victimes. Et j'ai demandé, mais ça s'est pas vraiment fait, au Seigneur, qu'il y ait une rencontre entre la victime et l'agresseur. Vous savez, c'est cette... à la manière de Jean-Paul II, au fond, hein, avec son agresseur qu'il a rencontré, qu'il a écouté, qu'il a revu comme une personne. Au lieu d'être celui-là, il est source de ma souffrance. Et c'est des gens qui ont détruit des vies, je veux dire, c'est des familles entières. Mais bon, j'ai essayé avec l'un ou l'autre, pourtant, dont je savais la foi chrétienne, etc. Mais je comprends en même temps, hein, il faut rester très modeste et dire non, c'est trop tôt, ou alors j'y arriverai pas, ou alors... ne serait-ce que, en présent, avec moi étant présent, c'est-à-dire que c'est pas seul avec l'autre, mais avec le fait d'aller en prison, parce qu'évidemment, il fallait aller en prison, c'est pas forcément simple, et puis ensuite, de rencontrer la personne que vous avez vue et qui vous a traumatisé. Hein, je me rappelle comme ça, un homme assez âgé, il avait été agressé pour voler son argent, parce que beaucoup de transactions se passent en liquide. Par exemple, les récoltes, la vente de la récolte, ça se passe en liquide, donc c'est en dollars et c'est des grosses sommes. Il avait été au courant de la vente. Il a dit, ben, il y a de l'argent. Ils sont arrivés à deux, dont un gros costaud, etc. Tiré par les cheveux, un homme de 70 ans, son frère en est mort. Ils étaient deux jumeaux, mais d'être assez âgés. Hein. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse seul, dans une ferme, seul. Je ne suis pas marié, je n'ai pas de famille. Qu'est-ce que j'ai qu'à vendre? C'est foutu pour moi. Vous voyez? Je comprenais très bien ce qu'il me disait. Je comprenais très bien. Et puis c'est un homme, il ne peut pas refaire sa vie non plus. À 70 ans, c'est plus compliqué. Donc, maintenant, c'est là où il faut demander parfois. Non, bon, c'est des situations extrêmes, mais bien sûr que... Mais ça nous aide aussi à comprendre que le message de l'Évangile a toute sa pertinence. Et que l'Église a une expertise en termes de réconciliation. Parce qu'elle-même aussi a blessé. Elle-même aussi a été du côté de l'agresseur. C'est pour ça qu'on peut parler. Si avec dessein, quelque part, on ne serait pas crédible. Et c'est la communion des saints et des moins saints. Et donc, du coup, c'est justement de revoir l'autre, dans un processus de réconciliation, c'est revoir l'autre comme une personne. et non pas comme une liste de défauts. De revoir sa beauté. Hein, pour nous qui avons à vivre des conflits quand même moins graves que ceux que j'ai évoqués, de revoir sa beauté, de revoir que c'est une personne qui est aimable. Et donc le pardon se voit aussi donc, dans le fait de la confiance retrouvée, dans le fait que l'amour hein, circule à nouveau entre nous. C'est le fruit de la prière. On disait c'est une grâce, et c'est vrai que dans ce sens-là, c'est le fruit de la prière où le Seigneur vient fortifier, vient par son Esprit Saint guérir ce qui est blessé. Hein. C'est la demande d'un amour plus fort que l'offense. Et que l'offense ne m'arrête pas dans l'amour. Vous voyez que l'offense, je veux dire, n'a pas de dernier mot, mais soit plus, que l'amour soit plus fort que l'offense. Mais ça, c'est Jésus qui nous montre le chemin. Il a continué d'aimer alors qu'il était humilié. Hein, comme Maximilien Kolbe. Le père Maximilien Kolbe, vous ne connaissez peut-être pas son histoire, ou certains oui, mais... Voilà, dans les camps de concentration, il a vu ce père de famille qui suppliait la grâce alors que 10 allaient être emmenés au bunker de la faim parce qu'il y avait un qui s'était échappé et pour un, 10 allaient mourir. Parmi les 10, les 10 étaient choisis comme ça, il n'était pas dans les 10. La réaction de base, c'est tac, tac, moi, non, il n'a pas fait ça. Et dans les 10, il y avait un père de famille nombreuse qui a supplié la grâce. Et il s'est laissé toucher. Il a avancé. Il avance. Il sort du rang. Alors qu'imagine une ambiance. Il sort du rang. L'officier est saisi, parce que personne... Et qui êtes-vous? Je suis prêtre. Prêtre catholique. Que voulez-vous? Je veux mourir pour l'un d'eux. Pour qui voulez-vous mourir? Il désigna. Alors qu'il n'avait qu'un quart de poumon, cardiaque au dernier degré, voilà, il a fallu l'achever avec une injection létale. Et on entendait des cantiques qui sortaient du bunker. Oui, des exemples comme ça, bien sûr, c'est des exemples, des situations. Mais comment des situations d'extrême tension et de où l'obscurité semble gagner, il y a des points lumineux. Nous ne sommes pas dans une situation comme ça, mais ça ne nous empêche pas d'être aussi lumière. Parce que c'est la vocation du chrétien, d'être lumière. Et la lumière, on ne la met pas sous le lit, on la met sur le lampadaire, pour qu'elle éclaire. La lumière, elle ne vit pas pour elle-même. C'est la qualité de la lumière, ce n'est pas pour elle-même qu'elle éclaire. De même que le sel, ce n'est pas pour lui-même qu'il sale. Et quand Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre », il nous inscrit dans une logique de don et de témoignage. Ça veut dire avoir foi aussi dans ces réconciliations, avoir foi dans ces démarches. Ça demande un acte de foi. Souvent, je reconnais bien. Ça demande un acte de foi, d'entamer une réconciliation avec le Seigneur parce qu'on s'est senti offensé par lui, je vous l'expliquais tout à l'heure, ou se réconcilier avec soi-même. Combien de fois aussi c'est un cheminement, mais vraiment qui prend plusieurs temps, voire plusieurs années. De se pardonner à soi-même ce qu'on a pu faire, ou de se pardonner ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Un autre point, c'est que on sort d'une crise, d'un conflit par le haut, en réaffirmant ce qui nous unit. Je pense plutôt, par exemple, à la vie de couple, pour vous dire les choses derrière ça, qu'est-ce qu'il y a. À la vie de couple, il peut y avoir des tensions, c'est normal, et peut y avoir des conflits, il y en a, mais c'est en réaffirmant ce qui nous unit, c'est-à-dire en réaffirmant l'amour que l'on a l'un pour l'autre, que l'on peut vraiment, au fond, être tiré vers le haut et rentrer dans la réconciliation. Et à la fois revoir l'autre comme une personne humaine. Revoir sa beauté, et non pas le voir comme une liste de défauts. Et surtout, c'est se dire une chose, ça c'est vraiment capital aussi. C'est pas parce que j'ai été blessé que je ne peux pas construire. S'il fallait attendre d'être indemne de toute blessure, parfaitement équilibré pour commencer un cheminement, par exemple, de couple, personne ne se mariait. Ou pour commencer le cheminement dans la vie religieuse, sacerdotale, ou dans la vie professionnelle, personne ne ferait rien. Et parfois, on se laisse justement comme... on laisse justement le mal, la blessure, avoir le dernier mot, tout simplement parce qu'on ne pose pas un acte qui va de l'avant. Un acte de confiance. On se laisse comme submergé par à la fois notre blessure, à la fois ce conflit personnel, à la fois la conscience parfois de notre fragilité, voire de notre nullité, etc. Bon, et on ne construit plus. Et c'est très beau hein, dans le film, vous l'avez vu, le film peut-être La Passion, hein, Mel Gibson. Dans ce film-là, c'est très beau. À la fin, donc c'est tout le récit de La Passion, comme son nom l'indique, non pas la vie de Jésus. Hein, et certains n'avaient pas bien lu le titre, à mon avis, au début. Et donc, et à la fin, il y a une évocation de la résurrection. Vous souvenez un peu dans la évocation de la résurrection où on voit, il y a une grande lumière et on voit un homme de profil. Nu, comme le nouvel Adam, hein, qui est nu, et il passe sa main comme ça, devant la lumière, on voit la marque des clous. Une lumière qui sort de sa main. C'est très important que Jésus soit ressuscité avec ses blessures. C'est pas une impeccabilité, c'est que nos blessures sont lumineuses. C'est ça l'évangile. C'est que nos blessures sont lumineuses. Peuvent devenir lumineuses, en tout cas, c'est la volonté de Dieu et avec la grâce du Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment, mets ta main hein, dans les traces des clous, mets ta main dans mon côté. Sois croyant, cesse d'être incrédule. Et donc, ne prétextons pas nos fragilités pour ne pas justement construire. Au contraire, c'est la fragilité qui nous rend fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous portons ce trésor dans un vase d'argile, mais nous le portons quand même. Et je crois aussi que, pour parler un peu de la vie de couple, mais ça peut être une source de guérison. Une source de guérison à la fois manifeste nos blessures, nos incapacités d'aimer, et à la fois parce qu'on est aimé par l'autre de façon gratuite, c'est ça la vie matrimoniale, c'est l'amour désintéressé de l'autre et réciproque. Et parce qu'on est aimé de façon gratuite, eh bien, on a cette capacité d'être guéri de ses peurs. Parce que de la blessure naît la peur. La peur aussi d'être blessé une autre fois. Et un point, un avant-dernier point de méditation dans sur cette question-là, c'est, et encore, on pourrait continuer, mais vous continuerez vous-même, mais de dire, voilà, pour se réconcilier, il faut le vouloir. Ça peut paraître idiot, mais quelque part, il faut se décider. De même pour recevoir le sacrement de la réconciliation, alors c'est pas marrant, alors c'est vrai que c'est jamais marrant, on est bien d'accord, ce n'est pas l'objectif. Et puis c'est vrai qu'on dit, mais oui, mais la dernière fois. En fait, c'est vrai qu'on le fait rarement dans l'originalité. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais ça tombe bien. On va pas. Ah ben, vous savez, j'ai un truc nouveau que je ne vous ai pas dit la dernière fois. Mais non, ce n'est pas l'objectif. Je veux dire, l'objectif. C'est bon. J'aime bien cette phrase de Saint Benoît qui dit on vient fracasser la tentation contre le Christ. C'est-à-dire, on revient avec la même chose. On pourrait faire pratiquement un copier-coller de notre dernière confession. Bon, il n'y a pas de confession numérique, hein, je vous préviens, donc ça ne marche pas. On pourrait pratiquement. Et ben voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ces fragilités-là, on ne les vit plus seul. C'est ça la différence quand on est croyant. On ne les vit plus seul. Le croyant n'est jamais seul. On termine là-dessus. Amen.